La parole à laquelle j'ai fait référence, nous la trouvons dans 2 Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Paul a adressé cette parole à son collaborateur. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi sans une égratignure. Désormais, la couronne de la victoire, de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. C'est ce qui compte. Nous devons nous attendre à son apparition et avoir un désir intime et profond pour cela. Comme les jeunes fiancés ressentent un désir d'être ensemble. Cela doit être dans le spirituel en nous comme ça. Un tel désir doit nous remplir, mais nous remplir à un tel point que nous ne pouvons plus supporter de devoir encore attendre, mais que nous soyons remplis de l'amour divin et par cet amour attiré à notre époux céleste. Ce n'est pas entièrement comme ça, hein, mais ça devrait devenir comme ça. Ça doit devenir comme ça. Et je crois que ça va devenir comme ça. L'amour de Dieu à notre Seigneur et Rédempteur va nous apporter à ce point où nous ressentirons d'être attirés vers lui, jamais comme auparavant. Déjà, maintenant, nous nous sentons attirés d'aller écouter sa parole. Nous désirons entendre ce qu'il a à nous dire. Nous l'aimons. Nous aimons sa parole. Mais maintenant, complètement à la fin, le passage viendra où nous aimerons son apparition. Et nous attendre réellement à cela, nous préparer, nous réjouir de ce qu'il reviendra tel qu'il nous l'a promis. En relation avec les différents devoirs que notre Seigneur avait à remplir, je voudrais encore aller dans Matthieu 25, et vous allez voir que en alternance, il est juge, roi, rédempteur et Seigneur, différents devoirs, et ils sont aussi exprimés de manière différente. Ici, dans Matthieu 25, au verset 31, il est écrit: mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Matthieu 25, verset 31, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront alors rassemblées devant lui et il les séparera les unes des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Ici, dans la Bible allemande, nous lisons les brebis des moutons. En fait, ça devrait être ici les brebis des boucs. Je crois que vous le savez tous. Vous qui avez lu la Bible, ici, il devait être écrit « comme le berger sépare les brebis des boucs ». Donc, c'est à 100% correct. 100% correct. Comme ça. Pas maintenant, brebis des moutons, les femelles des mâles, ce serait grave. Alors, ça veut dire, les mâles resteraient tous et alors au ciel, il n'y aurait que des femmes. Et cela n'a pas le droit d'être. Non, non. Non, nous serons aussi là-bas. Nous devons aussi être là-bas. Mais je l'ai dit ici, sans nous, il n'y aura pas d'enlèvement. Mais je l'ai dit une fois et j'ai été mal compris. Je crois que le frère Rousse vient de dire, celui qui a la note en bas, c'est écrit non seulement, donc pas mouton mais bouc. C'est même écrit ici en bas. Mais il n'y a pas longtemps où les gens croient que l'enlèvement a déjà eu lieu et que le Seigneur est déjà revenu, etc. J'ai dit simplement, tant que vous me voyez encore ici sur terre, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et pas dans ma présence, mais après, il y a un frère qui s'est mis en couleur comme une dinde et il a dit, mais qu'est-ce qu'il se permet de dire, pour qui il se prend pour dire que tant qu'il est ici sur terre, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Moi, je me permets rien du tout de dire. Je fais que dire que je serai enlevé. Et si je suis encore ici, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Vous aussi, vous êtes tous ici, n'est-ce pas? Alors, mais non, il y a des hommes qui sont tordus dans leur esprit. Et quoi qu'on dirait, ce sera mal compris. Donc, quand le Seigneur chassera sur le trône de sa gloire, ça c'est déjà après le festin des noces de l'agneau, quand il s'assiera sur le trône de sa gloire pour juger entre les nations, les peuples, et pour rendre justice. Et vous savez ce qui est écrit alors au verset 34? Alors, il n'est pas ici utilisé le mot juge, mais le mot roi. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui avez été bénis par mon Père, recevez en héritage la royauté qui vous a été préparée dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Très clair. Alors commence la royauté, le règne auparavant. N'est-ce pas? Il a eu le devoir comme juge de juger. Et ensuite, il commence comme roi à régner. Et alors nous, tous, nous régnerons avec lui. Comme roi. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse, le chapitre 20. Ça, nous pouvons aussi le lire. Apocalypse, chapitre 20. Ici, il est écrit au verset 5. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans eussent été accomplis. C'est là la première résurrection. Un moment, je dois lire la moitié de la phrase avant. Verset 4. La fin du verset 4. Et ils, dans Apocalypse 20, et ils revinrent à la vie et régnèrent comme roi avec le Christ pendant 1000 ans. Nous n'avons pas ici le temps de montrer les détails, les contextes. Nous vivons, comme nous l'avons insisté, souligné, nous vivons dans un temps très particulier. Il n'y a pas d'écriture, de contexte, de versets qui restent sans clarté. Et s'il y a encore quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas, quand l'heure pour cela sera arrivée, les choses seront claires et nous les verrons clairement. Dieu nous fait passer de connaissance en connaissance et de clarté en clarté. Et pour ne pas arrêter le sujet que nous avions déjà commencé, j'aimerais lire dans l'Ancien Testament et dans du prophète Néhémie. Vous savez que les choses de l'Ancien Testament ont aussi leur image pour le Nouveau Testament. Et avec cette parole ici, nous voulons aller à la fin de ce week-end. Ici dans Néhémie, celui qui ne se connaît pas bien, dans l'Ancien Testament, Néhémie vient après Esdras. Donc, Néhémie, chapitre 8. Ici, nous lisons, ici, je lis à partir du verset 8. Néhémie, chapitre 8. Oh, pardon, verset 9. À partir du verset 9. Néhémie, qui était gouverneur, et Esdras, le sacrificateur, le scribe, et les lévites, qui enseignaient le peuple, dire à tous le peuple. Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas, car tout le peuple s'était mis à pleurer en entendant les paroles de la loi. Puis il poursuivit, « Allez, mangez des aliments gras et buvez des boissons sucrées et donnez aussi des portions à ceux pour qui rien n'a été préparé, car le jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous découragez pas, donc, ne vous découragez donc pas, car la joie dans l'Éternel est votre force. » Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est saint, et ne vous découragez pas. » Alors tout le peuple alla manger et boire, donner des portions et célébrer une grande fête de joie, parce qu'ils avaient compris les paroles qui leur avaient été communiquées. Ça, c'est une parole merveilleuse. Avec quel temps nous avons affaire ici? Le retour du peuple de la captivité babylonienne. La reconstruction du temple, le rassemblement du peuple, et ensuite il a été lu du livre de Dieu. Et tous l'écoutaient et ont commencé à pleurer. C'était un jour qui était saint, qui était sanctifié pour l'Éternel. Mais nous savons que le temps dans lequel nous vivons est saint pour notre Dieu, à notre Dieu. C'est un jour particulier dans lequel nous vivons. Et notre frère de Bruxelles, dans son témoignage, nous l'a représenté clairement, sous les yeux. Il était accroché à une communauté religieuse d'une manière qu'il voulait la porter. Il voulait la porter. C'est ainsi que cela lui a été montré en songe, si j'ai bien compris. Et subitement, il lui a été dit de sortir de cet endroit plein de démons. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Dit le Seigneur. Est-ce que le prophète Esaïe, dans le prophète 28, n'a-t-il pas dit que toutes les tables sont pleines d'ordures et de vomissements? Mais Dieu, dans ce jour, nous a garni une table riche avec de la nourriture pure, divine, et nous pouvons inviter tous et pour avoir part à cette nourriture. Et qu'est-ce que c'est que la nourriture? La nourriture, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et là, nous sommes de nouveau déjà au noyau de la chose pour nos jours. Ce n'est pas une parole, pas une parole avec des mélangée et flétrie avec des pensées et des opinions humaines, mais la pure, la claire et vraie et sainte parole de Dieu, comme ainsi dit le Seigneur. La nourriture divine et pure, c'est ce dont nous avons besoin et c'est ce que nous recevons et rien d'autre. Le peuple était revenu de Babylone, dans Néhémie 9 ici. Néhémie 8, pardon. Celui qui connaît l'histoire juive, il sait, justement en ce qui concerne le Talmud babylonien, que les gens ont lu du temps de Jésus et avec cela, ils ont été égarés. Au lieu de lire la Torah et les prophètes, ils ont lu le Talmud babylonien et jusqu'à aujourd'hui encore, Il est directement là-bas à voir au mur de lamentation et il lise seulement les interprétations au lieu de lire la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que nous lisions quelque chose de semblable, que des hommes pendant le temps où l'Église était encore dans la captivité babylonienne ont écrit, avaient écrit. Nous vivons dans un autre temps. Nous ne lisons pas des vieux livres et ce que des hommes, il y a 300 ou 400 ans, ont dit ou bien écrit, nous, nous rassemblons et nous rassemblons le peuple de Dieu au nom du Seigneur dans sa présence. Et nous lisons du livre de Dieu, les paroles de Dieu, et elles nous pénètrent le cœur. C'est ainsi que c'était autrefois. Et le jour est, comme nous l'avons lu, un jour saint pour l'Éternel, a été un jour saint pour l'Éternel. Et il est dit ici, comme consolation, la deuxième partie du verset 9, « Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas. » À Babylone, les harpes et les instruments étaient accrochés au mur. Il y avait la tristesse. Et ils disaient, « Comment est-ce que nous devrions chanter et jouer les, sur un sol étranger les cantiques de l'Éternel ?» Ils n'étaient pas prêts à décrocher leur instrument pour chanter. Ils n'avaient rien à chanter. C'était de la lamentation et parmi eux. Mais quand ils sont revenus, quand leurs pieds ont foulé le sol de Jérusalem, quand le temple de nouveau fut reconstruit et que le peuple a été rassemblé, et que la parole originale, pas le Talmud, mais la parole originale leur a été lue. Alors là, ils étaient saisis intérieurement, profondément, ils étaient touchés. Dites-moi, comment les choses vont pour nous dans ces jours? Qui est encore saisi intérieurement, sous le coup de la parole? Qui est touché? Dans les derniers, premiers jours, nous étions saisis. Maintenant, je crois que c'était samedi soir que je l'ai dit, lors du dernier voyage par l'Afrique, où des milliers de personnes, pour la première fois, ont écouté ce que Dieu a fait dans ce temps, dans ce jour, dans notre temps. Vous aurez dû voir cela, de quelle manière ils ont été saisis et de quelle manière ils ont reçu ce qu'ils ont entendu et comment est-ce que leurs réactions ont été. Ne permettez jamais survenir cet état en vous que la parole n'a plus rien à vous dire et ne vous saisit plus, ne vous touche plus. La sainte parole de Dieu doit à chaque fois nous enthousiasmer et nous toucher nouvellement. À chaque fois. Et pour cela, il est nécessaire que nous puissions venir dans la foi et aussi accepter et recevoir la parole de Dieu. Il y en a parfois qui ont des difficultés, c'est peut-être raison que il est important dans son cœur d'avoir cette résonance. Mais ne vous inquiétez pas, elle viendra. Ici, nous avons lu à la fin la deuxième partie du verset 12, parce qu'ils avaient compris les paroles qui leur avaient été communiquées. Au moment où nous comprenons la parole qui nous a été communiquée, où nous avons compris la parole, alors nous aussi, nous pourrons louer et exalter le Seigneur et nous réjouir avec la clarté divine. La reconnaissance survient et la paix et la joie dans le Saint-Esprit aussi. Un homme qui a de l'incertitude, qui n'est pas clair, qui n'a pas de la compréhension sur quoi que ce soit une décision ou bien quoi que ça pourrait concerner, il est intérieurement déchiré. Mais au moment où la clarté vient, alors la reconnaissance suit. Et c'est ainsi que c'était autrefois. C'est peut-être la raison qu'il est écrit ici. Esdras et ses frères, Néhémie, etc., ont enseigné le peuple. Et il est dit ici, « Car ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. » Verset 9, la deuxième partie, « Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas. » Néhémie 8, verset 9, deuxième partie. C'était le temps d'épreuve par lesquelles ils devaient passer. Qu'est-ce qui leur est arrivé, hein? Ils sont passés par beaucoup de difficultés, mais ils ont vécu ce jour dans lequel l'œuvre qui avait commencé a vu son achèvement, qui avait été commencé. Et n'est-il pas écrit dans Zacharie chapitre 4, verset 10, car celui qui a méprisé le jour des petits commencements verra avec joie la dernière pierre dans la main de Zorobabel. Qu'est-ce que c'était? Dieu commence, il donne des promesses. Quand le temps arrive, alors il les accomplit. Il a dit par le prophète Jérémie que Israël, pendant 70 ans, serait en captivité. Et quand 68 ans étaient passés, le prophète Daniel a lu dans les écritures du prophète Jérémie. Et l'Esprit de Dieu a commencé en lui à agir. Et quand le temps était arrivé, Dieu a changé leur destin et a ramené son peuple. Et il a accompli les promesses qu'il avait données. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons la comparaison pour le temps dans lequel nous vivons. Un appel à sortir de tout ce qui est Babylone. Mais s'il vous plaît, nous ne voulons pas seulement sortir de Babylone. Nous voulons aussi faire sortir Babylone de nous. Beaucoup sont sortis d'ici et de là et de là-bas. Et ils sont venus avec les poches pleines de choses, des choses anciennes qui étaient ici et là-bas. Non, nous devons sortir les choses anciennes complètement, entièrement. Les faire sortir. Je ne sais pas si cette comparaison ici, ça juste et à sa place, mais un homme qui se prépare à mourir, de lui, il est dit que les chemises et les pantalons de mort n'ont pas de poche. On ne peut rien y mettre. Et si nous voulons mourir avec Christ, alors s'il vous plaît, pas encore à droite et à gauche remplir les poches avec les vieilles choses, les choses anciennes. Non, mais nous voulons avec lui aller dans la mort et avec lui ressusciter pour marcher désormais en nouveauté de vie, en nouveauté de vie. Et alors là, nous chercherons les choses qui sont en haut et plus de vieux levain. Nous voudrons le prendre de l'autre côté pour de nouveau encore faire lever les choses nouvelles, la chose nouvelle. Non, Paul dit aux Corinthiens, faites disparaître du milieu de vous le vieux levain, car un peu de levain fait lever toute la pâte, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Et ça, nous devons nous le remarquer. 1 Corinthiens 5, verset 6 et 7. C'est pour cette raison que Dieu nous a révélé sa parole, pour que tout le vieux levain. Et les disciples ont demandé, mais qu'est-ce que notre Seigneur veut dire quand il parle, alors que le Seigneur parlait de vieux levain, de pain qui il discernait leurs pensées et il leur a dit concernant l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont compris que le vieux levain n'est pas quelque part dans une corbeille un peu comme ça arrondie et laissée la nuit, non, mais que il consiste à ces faux enseignements. Et cela doit disparaître, doit être mis dehors pour pouvoir devenir une nouvelle pâte entièrement de pureté et de vérité. Et cela est possible si nous avons compris les paroles de Dieu et que nous ne mélangeons plus rien, ajoutons rien et retranchons plus rien. Il est dit ici, ce jour est saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas. Le temps des pleurs, parfois on doit pleurer. Alors qu'il n'y a pas longtemps, j'avais écouté une histoire qu'on m'avait racontée et j'étais presque en train de pleurer. Parfois on pleure sur des choses qui nous font mal ou bien font mal aux autres. Mais dans le domaine spirituel, quand nous considérons bien cela, il y a une chose qui reste, c'est la joie dans le Seigneur qui peut être notre force, qui peut devenir notre force, qui est notre force, et que Dieu puisse nous aider pour cela. Ensuite, ici le verset 10, dans Néhémie 8, encore le verset 10, puis il poursuivit. Allez, mangez des aliments gras et buvez des boissons sucrées. Et donnez aussi des portions à ceux pour qui rien n'a été préparé, car le jour est saint pour notre Seigneur. Donc, il y en a qui seront surpris. Notre frère Rousse a lu de Job. Il y a des chapitres sur chapitres. Justement, dans Job, où alors lui ou l'un des trois frères ont parlé, des trois amis, pardon, ont parlé. C'est chapitre sur chapitre. Peut-être pendant 37 chapitres, on devrait regarder. En tout, il y a 37 chapitres sont passés où Job a parlé et tous les autres ont parlé et chacun a donné sa sagesse, n'est-ce pas? Mais ensuite, au chapitre 38, là, le Seigneur a commencé à parler. Et au moment, tout le destin a changé. Et là, Dieu a rendu justice. Et Job devait, pour ses amis, prier. Qui, pendant 37 chapitres, ils avaient raison. Cela semblait ainsi, n'est-ce pas? Mais quand le Seigneur a parlé, il les a durement réprimandés. À tel point qu'au chapitre 42, au verset 7, il est écrit, Job 42, verset 7. Après avoir parlé à Job ainsi, l'Éternel dit à Eliphaz de Théma. C'était celui qui a modéré tout, n'est-ce pas? Hein? Ma colère s'enflamme contre toi et contre tes deux amis. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont plongé l'homme, déjà très éprouvé par le diable, dans un désespoir encore plus grand. Et ils l'ont torturé par leur discours sans qu'il se rende compte. Sans qu'il se rende compte de ce qu'il faisait. En fait, il y a cette parole, c'est là que le collier a éclaté dans Job chapitre 19. Je sais parce que déjà je l'ai écrit dans la lettre circulaire. Dans Job chapitre 19, ici il est écrit au verset 2. Jusqu'à quand voulez-vous attrister mon cœur et me torturer avec des discours? Ça aussi, ça existe. L'homme n'a pas besoin de mettre quelqu'un sous la torture. Avec des mots, des paroles, avec des discours, avec des suspicions, des soupçons, des insinuations, on peut torturer une personne à tel point qu'on la déstabilise, qu'on l'ébranle, à tel point que la personne n'en peut plus. Et là, comme déjà dit, le collier son collier a éclaté. Et au verset 7, il dit, eh bien alors son col a craqué, comme on dit, son col a craqué, pas le collier, son col. 10 fois déjà, vous m'avez injurié, vous n'avez pas honte de me faire du mal. Il a même compté. Ils lui ont fait du mal. Ils l'ont injurié. Mais comme déjà dit, au moment où le Seigneur a commencé à parler, a intervenu, et où le Seigneur a parlé, tout, le destin a changé, et ils ont eu à manger et à boire, il y a eu une fête. Et Dieu a dit à Job de prier pour ses amis. Ici dans Néhémie, nous avons lu que aussi à ceux pour qui rien n'a été préparé, et il soit aussi donné des portions. Verset 10, Néhémie 8, il y aura des hommes, des gens qui vivront aussi leur surprise. Des gens qui ne se seront pas attendus à cela et subitement, le Seigneur les sortira du feu comme un charbon, les arrachera, et ils mangeront et boiront, et se réjouiront à la table du Seigneur, s'asseyeront à la table du Seigneur. Ici, d'une manière merveilleuse. Il est écrit au verset 11 et au verset 12, Néhémie 8, verset 11. Ainsi les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, soyez tranquilles, car ce jour est saint et ne vous découragez pas. Qu'est-ce que c'était? Un jour saint, un jour que le Seigneur avait fait, un jour de bénédictions particulières du Dieu Tout-Puissant parmi le peuple qui était revenu de la captivité babylonienne, qui était revenu. Et de la même manière, nous pouvons dire dans ces jours et tirer cette comparaison avec l'Église du Dieu vivant à laquelle nous nous comptons. Oui, je me compte à l'Église des premiers-nés. J'espère et je crois que nous tous, nous le faisons. Dieu a fait en sorte que son peuple de la captivité babylonienne spirituelle soit sorti, soit ramené sur le sol saint de sa parole, sur le même sol sur lequel Paul et Pierre et tous les hommes de Dieu et tous les prophètes et les apôtres ont marché. Et donc Paul écrit aux Éphésiens que Christ est la pierre angulaire. Les prophètes et les apôtres ont parlé. Et nous avons la grâce de revenir à ce qu'ils ont dit, à la vraie parole, au point de départ, à l'annonce et programmation originale de ce que nos frères et de ce qu'ils ont prêché au commencement. Ça, c'est la restauration. C'est d'être ramené à ce que Dieu, dans ces derniers jours, a promis à l'Église. À nous aussi, le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, soyez tranquilles, car ce jour est saint et ne vous découragez pas. Souvent, nous nous décourageons à cause de certaines choses. Mais quand nous venons sous l'écoute de la parole de Dieu et que nous devenons et que par l'écoute de la parole, nous sommes conscients de ce que Dieu a fait en nous et qu'il a ouvert les prisons, et qui nous a fait sortir de Babel, de Babylone, ou bien alors de Babylone. Regardez comment est-ce que les choses sont proches. Babel veut dire porte de Dieu. Babylone veut dire confusion. Si rapidement, regardez comment si vite de Babel, de la porte de Dieu, et elle à la fin, une Babylone a été faite. Les choses sont très proches l'une de l'autre. Qu'est-ce que l'ennemi a fait de la parole de Dieu originelle? Combien d'interprétations et combien de sens ont été tordus? Plus rien n'est resté que une Babylone. Mais Dieu a ouvert toutes les portes de ses prisons, nous a ramenés sur le sol saint. Nous ne devons pas être tristes, mais reconnaître que ce jour dans lequel nous vivons maintenant est saint au Seigneur notre Dieu. Car parce que c'est un jour particulier, un jour que tous les prophètes et tous les apôtres auraient bien voulu vivre. Et nous avons la grâce de le vivre un jour que le Seigneur a fait. Et il est écrit ici, ensuite pour finir, au verset 12, « Alors tout le peuple alla manger et boire et donner des portions aux nécessiteux et célébrer une grande fête de joie. » Et là, il y a les paroles dans le prophète Joël que quand le Seigneur restaurera tout, alors les airs se rempliront de blé et les cuves régorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années. Plus rien ne manquera. La plénitude sera là. Car ainsi dit le Seigneur, je restaurera toutes choses, je vous remplacerai les années. Il restaurera toutes choses, restituera toutes choses, ramènera toutes choses dans l'état primitif. Joël 2, verset 24-25. Le peuple de Dieu se réjouira de nouveau. Et les arfes, ils descendront des murs. Et il y aura de la joie et de la louange et de l'allégresse. Et de l'allégresse parmi le peuple de Dieu. La clé à tout cela est dans les dernières paroles du verset 12. Parce qu'ils avaient compris les paroles qui leur avaient été communiquées. Que Dieu puisse m'accorder à toi et à moi, à nous tous, et à tout son peuple, nous accorder la grâce de le comprendre dans sa parole, dans ce qu'il dit, de classer tout correctement dans l'ordre biblique, de voir tout dans le contexte biblique et d'aller de l'avant dans une grande attente, car le Seigneur bâtit son Église. Et les portes de l'enfer ne prendront pas contre elle. Vous savez, alors qu'autrefois, ils ont bâti, comment est-ce que les ennemis ont voulu leur nuire et que même des amis sont venus et voulaient bâtir avec eux. Mais là, il y avait eu des hommes qui n'avaient pas trouvé leur extrait de naissance. Vous savez tout cela? Oui, bien sûr, il y avait eu des hommes. Ils ont cherché leur extrait de naissance et ils ne l'ont pas trouvé. Je voulais même pas le mentionner, mais c'est écrit dans Néhémie chapitre 7, au verset 64. Néhémie 7, verset 64. Ceux-là avaient bien cherché leur titre généalogique, mais on ne l'avait pas trouvé. C'est pourquoi ils furent exclus du sacerdoce comme étant impurs. Donc comme impurs pour servir comme sacrificateurs. Nous ne voulons pas maintenant en parler, mais nous croyons que nous sommes la descendance divine. Nous sommes nés de la semence incorruptible de la parole de Dieu, nés de nouveau pour une espérance vivante. Nous ne sommes pas des étrangers et des visiteurs. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, comme fils et filles du Dieu très haut. Et tel que notre frère nous a lu de 2 Corinthiens, là il nous a été tout dit, ce que le Seigneur voulait faire de nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Et ça, c'est écrit après cette parole de sortir de tout. Après, là où il nous a dit de sortir de tout, de nous séparer, de toucher à rien d'impur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur nous accueillerait, nous agréera. Il y a une condition pour être accueilli et être établi dans la position de fils et de fille. D'abord, il faut sortir de tout pour ensuite être entièrement en Christ, dans sa parole, dans sa puissance, dans son esprit. Nous devons avant cela sortir d'abord entièrement de tout le reste pour ensuite être entièrement inséré et entré dans le divin, dans les choses divines. Nous devons laisser tout tomber de nos mains et de nos cœurs, tout ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, pour pouvoir recevoir la pleine révélation de la parole de Dieu. Séparez-vous, ordonne le Seigneur. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Commande le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Verset 17, il a lu. Ensuite, il relit le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. De sortir, c'est un commandement du Seigneur. Ça, c'est notre temps. Ça, c'est nos jours. C'est notre jour. Il y a des paroles dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui simplement trouvent leur accomplissement dans nos jours. Quand est-ce qu'il y a eu un temps d'une sortie totale de tout Et qu'est-ce que Frère Branham a dit de ce dernier réveil? Il n'y aura pas de nouvelle dénomination qui apparaîtra. Mais de ce dernier message, c'est l'Église épouse qui sera le résultat de ce dernier message. Dans tous les autres réveils, ce n'est pas une critique, c'est simplement une constatation triste. Ils se sont organisés, ils ont fait exactement les choses selon le modèle de la mère. Toutes les filles l'ont fait. Mais maintenant, à la fin, dans cet âge prophétique dans lequel nous sommes, Dieu a un plan, a laissé savoir à son peuple son plan prophétique, son destin prophétique. Il nous a fraîchement du trône révélé sa parole, sortant de son trône, et il a garni une table pure, et cela en face de nos ennemis. Et ils sont autour de nous. C'est mieux d'être haï que de haïr. C'est mieux d'être calomnié que de calomnier. Et c'est ainsi qu'on pourrait continuer la liste. On reconnaît en cela et par cela de quel esprit on est les enfants. Des vrais enfants de Dieu ne peuvent pas haïr, même si un enfant de Dieu pourrait même s'il s'efforcerait. C'est pas possible. C'est même pas possible. Il ne sait même pas comment ça se passe, comment on peut. La nature de Jésus nous remplit et les fruits de l'Esprit sont manifestés, sans effort personnel. Nous avons, ce week-end, parlé de jours particuliers. Et c'était la fin. Autrefois, c'était aussi un jour particulier qui était saint au Seigneur. Et je vous le dis, quels jours sont saints au Seigneur? Ce sont les jours dans lesquels, parmi son peuple, il peut agir, parler et bénir. Ce sont ces jours-là qui lui sont saints. Et un tel jour est aussi ce jour, le jour du salut, le jour de la grâce, le jour favorable dans lequel nous vivons. Et le temps dans lequel nous sommes arrivés est un temps particulier, je l'ai déjà dit. Une période prophétique dans laquelle cela se retrouve, qui ont reconnu et n'écoutent pas seulement la parole prophétique pour cette heure, pour ce temps, mais la reçoivent révélée et éclaircie par le Saint-Esprit. Tous les autres, eux, seront confus. Pour finir, encore cette pensée, le service de Frère Branham a été reconnu de tous, et il y en a qui se sont laissés bénir de Dieu. Mais quand il fut dit qu'il est le prophète qui était promis dans la Bible, alors là, les esprits se sont divisés. Ils ne voulaient pas avouer que Dieu, maintenant, avait accompli ce qu'il avait promis. Ils ne voulaient pas l'admettre. Tous voulaient être bénis, recevoir les bénédictions par ce service. Mais beaucoup n'étaient pas prêts à se soumettre. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons reconnu la commission, le service de cet homme qui avait été promis dans la Bible. Et nous sommes aussi reconnaissants de ce que nous ne donnons pas l'honneur à un homme, la gloire à un homme, mais au Dieu vivant et au Dieu vivant seul. Nous allons nous garder de glorifier un homme. Qu'est-ce que Frère Branham disait? Il disait, cette parole est mon absolu. Et cette parole est et demeure notre absolu jusqu'à la fin, car le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que le Dieu le Seigneur puisse nous bénir richement tous. Amen. Amen. Peut-être que nous venons tous devant tel que nous l'avons souvent fait pour, encore une fois, remercier le Seigneur.